Bon, désolé du léger retard, on va rejoindre notre ami Arpin Basu qui est avec nous tous les vendredis. Arpin, comment vas-tu?
Ça va bien les gars. J'ai aucune idée de quoi tu parlais tantôt, là, mais ça va bien.
On taquinait Ben un peu.
Tout d'un coup, c'était une conversation philosophique sur l'industrie. Là, c'était un peu inattendu. En tout cas.
Ouais, c'est nous autres. Des fois, c'est un délire le vendredi. Ouais. Des fois, ouais.
Ouais. On a tout ça en fin de semaine.
Afin, comment tu as réagi à cette autre victoire du Canadien, et surtout le fait qu'ils sont sur une belle séquence de 3 victoires de suite?
Ben écoute, il y a souvent cette saison, ben, peut-être pas toute la saison, mais dernièrement, c'est sûr. Il y avait des matchs où tu pensais que le Canadien doit gagner juste à cause de la situation. Tu regardes le classement, tu regardes les alignements. Tu sais, je pense au match à Philadelphie, par exemple, plus récemment. Puis, ils n'ont pas été à la hauteur. Puis, hier soir, ils ont été à la hauteur. Puis, je trouve même en première période, c'était un peu brouillon, le jeu du Canadien, mais la deuxième période hier soir, c'était comme la période, je pense, la plus dominante du Canadien qu'on a vue depuis longtemps. Je pense au premier entracte. Ils se sont dit, c'est pas vrai qu'on va permettre à cette équipe-là de rester dans le match avec nous. Il faut démontrer quelque chose. Puis en plus, quand tu y penses, c'est comme le Canadien n'avait pas battu les Bruins en temps réglementaire depuis 2019. C'était une séquence de, je
fou,
pense, 15 ou 16 matchs qui ont pas, tu sais, ils les ont battu une fois depuis ce temps-là, mais c'était en prolongation. Alors, tu sais, Slavkovski disait après le match, il dit, je pense que depuis mon arrivée, on les a pas battus. Ils les ont battus une fois, mais c'était en prolongation à Montréal en 2023. Mais alors, tu sais, il y avait plusieurs motivations, mais je pense que la première motivation du Canadien, c'était comme, on va aller mettre fin à ce match-là, là. Et en deuxième période, les Bruins n'ont pas touché à la rondelle. Alors, ça, c'est un signe encourageant que cette équipe-là est capable de reconnaître qu'ils sont contre, ils affrontent une équipe qui est plus faible qu'eux, puis il faut montrer ça. Au lieu de baisser leur niveau de jeu à l'équipe qu'ils affrontent, ils ont élevé leur niveau de jeu pour démontrer à quel point ils sont supérieurs à leur adversaire. Puis écoute, l'alignement de Boston, c'est méconnaissable. Ça fait un peu pitié, tu sais. Je regardais David Pastrnak hier soir, puis j'étais comme, wow, il est tout seul, là. Tu sais, c'est comme, c'est un peu plate pour lui. Mais c'est pas un problème du Canadien. Puis effectivement, ils ont démontré ça en deuxième période. C'était vraiment, vraiment dominant de leur part. En fait, c'était très similaire à ce que les Blues ont fait à eux en première période à Saint-Louis. C'est ce que le Canadien a fait aux Bruins hier soir en deuxième période.
Ouais, puis c'est rare qu'on a vu ça de la part du Canadien de Montréal. Puis c'est pas un désaveu, là, ou un, tu sais, je veux dire, j'envoie pas le Canadien en dessous de l'autobus, mais ça fait du bien. Puis ce qui fait du bien aussi, Saint-Louis en a parlé, c'est rare que l'équipe, puis les joueurs aussi en ont parlé, c'est rare que l'équipe joue avec une avance. Le Canadien de Montréal est habitué de jouer, je veux dire, du hockey de rattrapage, puis c'est match après match après match. Ça aussi, c'est éreintant. Ça, c'est épuisant. Donc ça va faire du bien au Canadien de Montréal d'avoir joué au moins avec une avance et d'avoir conservé cette avance.
Ben, c'est ça. Il faut apprendre comment jouer ces matchs-là, comment gérer ces matchs-là. Ouais. Tu sais, hier soir, quand Martin Saint-Louis a dit, c'est fini l'apprentissage, là, on veut plus apprendre des matchs. C'est le temps d'exécuter cette saison. C'est plus apprendre. C'est exécuter les choses. Alors, cette troisième période-là, je trouve que ils ont exécuté, mais ils ont appris quelque chose aussi. Ils ont appris comment gérer un match parce que, Les Bruins, ils ont fait un poussé en troisième période. Il y avait la rondelle plus souvent. Eux autres aussi, tu sais, trouvaient que la deuxième période, c'était inacceptable. Ils ont sorti, puis ils ont essayé de rentrer dans le match. Puis il y avait la rondelle plus souvent. Il y avait la rondelle en zone offensive, dans la zone du Canadien plus souvent. Mais il n'y a pas eu grand-chose en termes de chance. Honnêtement, le Canadien a réussi à les garder à l'extérieur puis gérer effectivement cette poussée-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit apprendre à faire. Puis c'est souvent, on a vu le Canadien est incapable de faire ça, pas avec une avance de 3 buts, mais avec une avance de 1 but, 2 buts en troisième période. On a vu un certain relâchement dans leur gestion de match, et je trouve qu'hier soir, ils ont bien géré la situation, même si c'était contre une équipe qui est honnêtement très faible. C'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à faire comme pour une jeune équipe comme le Canadien.
Après, Nick Suzuki, là, je pense que personne ne peut dire que c'est un vrai centre, pas un vrai premier centre dans la LNH. Est-ce qu'il te surprend ou ce qu'il fait en ce moment, c'est ce que tu t'attendais?
Ben, tu peux pas être surpris quand chaque année, il s'améliore puis sa production augmente. Tu sais, c'est quand même assez rare de voir jeune joueur que, tu sais, au cours de, c'est quoi, c'est sa cinquième saison cette année, si je ne me trompe pas, là, c'est pas mal ça, cinquième, sixième. Puis à chaque année, il augmente son niveau de production. Puis là, tu sais, ça fait combien de temps qu'on dit qu'on n'a pas eu un joueur de points par match? C'est hier soir même, au Centre Bell, ils l'ont affiché sur l'écran géant, que c'est le premier joueur depuis Alex Kovalev à avoir 80 points dans une saison. Kent Hughes a été demandé à maintes reprises comment tu vas aller trouver un joueur de points par match. Puis la saison passée, Gorton et Hughes ont très clairement dit que nous, on est convaincus que Nick Suzuki va être notre premier centre. Il a le talent pour le faire. C'est notre capitaine. Puis c'était un grand support pour Suzuki. Alors, ce qu'il fait en ce moment, ce qui me surprend un peu, c'est pas ce niveau de production. Il y a une croissance très linéaire dans sa production depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Ce qui m'a surpris un tout petit peu, puis c'est une belle surprise, c'est juste la façon qu'il a pris la situation en main en sortant du tournoi des Quatre Nations. Puis, a littéralement mis l'équipe sur son dos, puis a sauvé la saison de l'équipe. Puis, il parlait hier soir, puis il dit, tu sais, je voulais faire, tu sais, I wanted to make the playoffs so bad. Je le voulais tellement cette année. Puis, il parlait comme ça au début de la saison, puis il parlait tough, là. Il parlait comme, tu sais, je comprends pas pourquoi tout le monde est sleeping on us. Tout le monde est nous ignore, dans le fond, dans toutes les discussions de qui va faire les séries, qui est dans la course, qui est dans le mix. Je pense que vous allez regretter ce qu'il a dit avant au tournoi de golf. Et en sortant, tu sais, en arrivant dans le tournoi des Quatre Nations, ces mots-là, ces propos-là avaient l'air ridicules, la façon que le Canadien est entré dans ce break-là avec une victoire en 9 matchs. Puis on sorti de ce break-là, puis Nick Suzuki a dit c'est pas vrai que je vais avoir l'air d'un gars qui avait des propos ridicules en début de saison. Moi, je vais faire en sorte que ce que j'ai dit au début de la saison, ça va tenir à la fin de la saison, puis c'est lui qui l'a fait.
Maintenant, restons sur Suzuki. La question du jour, et on aura les résultats un peu plus tard, et j'imagine que si on avait posé la question en début de saison, ce serait un résultat complètement différent. Est-ce que pour toi, Suzuki va faire 100 points en une saison un jour dans sa carrière, et est-ce que tu penses qu'il va gagner un Selke une fois dans sa carrière?
100 points, oui. Oui, je pense que oui, il pourrait le faire. Parce qu'honnêtement, il faut pas oublier que Nick Suzuki a eu la production qu'il a eue cette saison avec une Slavkovski qui a pas été à la hauteur pendant la première moitié de la saison. Caulfield a connu une bonne saison. Je trouve qu'il avait une belle constance dans son jeu. Puis un bon développement de son jeu sur 200 pieds. Mais il a fait ça sans un Slavkovski qui était vraiment au top de sa potentiel. Puis on verra si Slavkovski est capable d'être au top de sa potentiel pour une saison complète dès l'année prochaine. Mais quand ça va arriver, ou si ça arrive, la production de Suzuki va monter beaucoup, là. C'est quand même, il y a eu la production, tu sais, écoute, il y a une chance de faire quoi, 85 points cette saison, ce qui est une belle récolte. C'est la meilleure saison de sa carrière, évidemment. Mais il l'a fait sans avoir ça pour la première moitié de saison. Alors, ajouter un autre 15 points à son rendement avec un Slavkovski qui produit d'une façon constante, c'est très réaliste. Ça a du sens. Puis en plus, si le Canadien est capable de construire un deuxième trio derrière lui qui donne raison à l'autre équipe de penser à eux, tu sais, tu ajoutes un demi-d'oeuvre, tu ajoutes un deuxième centre, je sais pas ce que tu vas faire avec Laine, mais t'as Laine qui est là. Puis si tu es capable d'avoir ce support-là pour Suzuki, son rendement va être encore meilleur. Alors 100 points, j'ai pas de doute. Le Selke est très possible. Moi, je trouve que le prochain gars qui va commencer à comme dominer la conversation pour Selke, c'est Nico Hischier à New Jersey. Et ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile pour Suzuki d'aller contre lui. Mais il va le mériter. Puis ça me surprendrait pas qu'il soit finaliste. S'il va en gagner, je mettrais, il y a une chance, mais les chances sont pas super. Mais ça me surprendrait pas qu'il soit finaliste un jour, mais pour le moment, juste atteindre le plateau des 100 points, ça effacerait tous les doutes que le monde a sur lui comme étant un premier centre. Je pense que sa production va régler ce dossier-là une fois pour toutes.
Là, Pen, si le Canadien fait les séries, là, ce qui est très probable, est-ce que selon toi, sans qu'il la gagne, au minimum, Martin Saint-Louis va être en nomination pour le Jack Adam?
Je pense même être en nomination, ça va être difficile. Écoute, tu regardes tous les candidats qu'il y a, puis il y en a un qui, je pense, vient de se faufiler puis devenir un candidat très sérieux. Et alors déjà, tu avais comme Spencer Carberry à Washington, tu avais Dean Evason à Columbus, que même si Columbus fait pas les séries, je pense que juste à cause de la tragédie puis tout ce qui s'est passé au début de la saison, je pense qu'il va mériter des votes. Il y a beaucoup de candidats pour être finaliste, mais le gars qui change la donne un peu pour Martin Saint-Louis, parce qu'en circonstances normales, oui, il serait un candidat, il serait un finaliste pour cet honneur-là, mais ce que Jim Montgomery est en train de faire à Saint-Louis, je pense, ça va commencer à changer ça. C'est changer ses chances d'être finaliste parce que c'est rare que tu vois un coach qui est arrivé en novembre, en mi-chemin, à être un finaliste ou même gagner le Jack Adams. Mais en ce moment, les Blues ont une fiche de 33, 16 et 6 avec Jim Montgomery comme coach. C'était pas ça avant son arrivée. Puis tu vois ce qui est arrivé aux Bruins après son départ. C'est quand même frappant comme coach, comme impact qu'un coach peut avoir. Alors, je trouve que Martin Saint-Louis mérite, il va avoir des votes. Ça me surprendrait qu'il soit finaliste, même s'il a fait un excellent job cette saison. Il y a aussi eu beaucoup de hauts et bas dans la saison du Canadien, ce qui est comme pas idéal pour le coach d'avoir vécu deux vraiment longues sécheresses, puis dernièrement, la séquence de cinq matchs à un moment critique de la saison, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose qui, Martin Saint-Louis s'améliore à arrêter ces sécheresses-là, puis il vient de le faire après seulement cinq matchs, au lieu que ça dure neuf comme avant le tournoi des Quatre Nations. Mais en général, les coachs qui connaissent des très hauts et puis des très bas-bas sont pas vraiment vus comme un candidat pour cet honneur-là, puis mais je pense que le fait que Jim Montgomery soit un sérieux candidat maintenant va faire en sorte que ça va être difficile pour Martin d'être finaliste parce que c'est pas probablement Spencer Carberry va le gagner anyway. Mais il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Même Travis Green à Ottawa mérite un peu de crédit pour ce qui se passe là-bas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de candidats, mais je pense que l'inconstance du Canadien cette saison va probablement coûter des votes à Martin.
Ouais, ça va être une lutte. On verra. Il reste encore quelques matchs. Là, parlons de la fin de semaine. Fin de semaine du Canadien de Montréal. Deux en deux avec un voyage à Nashville, un aller-retour en plus, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Là. C'est pas à côté. Est-ce que tu donnes un match à Dobesch en fin de semaine? Si oui, lequel et pourquoi?
Oui, je donnerais le match à Nashville.
Ouais.
C'est la plus, entre guillemets, facile des deux matchs, même si c'est le deuxième de back-à-back, mais on a souvent vu Dobesch cette saison jouer la deuxième d'un back-à-back. Ouais, je garderai mon tambour devant le filet à la maison
Tu le gardes-tu à Montréal? On parlait de ça tout à l'heure, Harpin. Est-ce que tu serais tenté de garder Montembeau à Montréal et de rappeler Caden Primeau pour seconder Dobesch, vu que lui est à Winnipeg et au Manitoba?
Non.
Non?
Non, non, non. Non. Non.
Non, mais ça aurait donné du repos à Montembeau de ne pas l'envoyer sur la route de faire le voyage.
Ouais, non, non. Non, et honnêtement, je pense que Montembeau n'aimerait pas ça. Il veut être avec l'équipe, il veut. Non. Je pense que les bénéfices de ça sont pas assez larges pour justifier tout le paperasse, honnêtement, puis tout le trouble
Et le
de faire quelque
gaspillage, un
chose comme
rappel,
ça.
ouais, le gaspillage, un rappel
Le
aussi.
gaspillage, je te rappelle aussi. Alors, c'est non. Je pense que, puis honnêtement, Montembeau serait, juste en connaissant, là, il serait très, très, très contre cette idée-là. Puis, honnêtement, si ça va mal pour Dobesch à Nashville, ce qui est fort possible, ça serait plate d'être obligé de mettre Primeau dans une situation comme ça où l'équipe, évidemment, joue mal. Si ça va mal pour Dobesch, ça veut dire que le Canadien joue mal. Et, tu sais, Primeau a vraiment rebâti son confiance à Laval. Il est heureux là-bas. Il pense même pas à jouer à Montréal. Il est vraiment concentré sur ce qui arrive à Laval. C'est la meilleure équipe de la Ligue. Il veut rentrer en série. Il va avoir des bonnes séries. Moi, je toucherai pas à ça. ce qui se passe avec Primo maintenant est énormément positif.
Ouais.
Le potentiel d'avoir quelque chose de négatif qui se passe, ça serait une de plusieurs raisons de juste pas faire ça.
Pierre Pen, pour Fowler qui a signé, il s'en va à Laval cette saison. C'est quoi, tu penses, le plan, ça va être avec lui avant de voir à Montréal?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, alors là, Laval, il y a deux matchs à Abbotsford qui s'en vient. Puis là, il revient à la maison, il va s'entraîner. Puis leur prochain match après ces deux matchs, c'est contre Rochester. Alors, c'est possible que si Laval gagne ce match à Rochester, dépendamment de ce qui va se passer à Abbotsford, dépendamment de ce que Rochester va faire, c'est possible qu'en battant Rochester dans ce match-là, que le Rocket va essentiellement s'assurer de la première place, non seulement dans leur division, mais dans la Ligue. Si c'est le cas, il va leur rester, il me semble, quatre matchs après. En fait, j'ai l'horaire juste ici, là. Il va leur rester quatre matchs après, un match à Syracuse le lendemain. Ça serait le 12 avril. Puis trois matchs contre Belleville, deux à Laval, le 16 et le 18, puis un autre à Belleville, le 19. Alors là, tu as deux back-à-back, mais si jamais Laval est capable de s'assurer de la première place contre Rochester le 11 avril, ça me surprendrait pas du tout si Fowler soit le gardien le 12. Mais ils sont dans une situation un peu... Il y a une gestion d'équipe à faire. C'est jamais le fun, particulièrement avec tout ce que Primo a fait depuis qu'il a été renvoyé à Laval, puis la façon qu'il fait partie de tout le succès qui est arrivé à Laval, d'avoir un kid qui arrive du NCAA, puis expliquer à toute la vestiaire que là, on va mettre ce kid-là dans le filet au moment, juste avant les séries, vous avez battu toute la saison pour te mettre dans cette position-là, puis là, nous, on va décider de mettre ce kid-là que tu connais pas dans le filet. Des fois, ça peut être délicat. Tu sais, s'il y a peut-être avoir des gars dans ce vestiaire-là qui seraient pas d'accord avec cette décision-là. Alors, moi, je pense, la meilleure chose à faire, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais la meilleure chose à faire, ça serait d'attendre jusqu'à temps que Laval soit assuré de finir premier de leur division et premier de la Ligue. Puis après ça, voir ce que Fowler peut faire. Ce qui est plus intéressant, puis ce qui est plus difficile à prédire, quoi faire et comment gérer ça, c'est qu'est-ce que tu fais si Fowler, il rentre contre Syracuse le 12, puis il met un blanchissage. Alors là, tu le mets encore.
Ouais.
Là, tu le mets encore pour un autre match. Puis, il y a peut-être pas un autre blanchissage, mais il y a comme 36 arrêts, puis Laval gagne 2-1, puis il était fumant. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ça le débat. Ça devient quelque chose où peut-être même les gars dans le vestiaire sont en train de dire « Wow, ce kid-là, il est vraiment quelque chose. » Alors là, ce serait un problème très intéressant pour Laval. Moi, je trouve que dans le scénario que je viens de créer, dans le fond, tu continues avec Primo comme ton numéro un, mais wow, t'as beaucoup moins de patience avec Primo dans ce cas-là que t'auras normalement. Alors, ça reste à voir ce que Fowler peut faire dans les matchs qu'il va jouer, mais je pense qu'il y a une position quand même assez intéressante où il va être mis dans une position de peut-être rendre cette décision-là un peu plus difficile ouais. que ça l'est en ce moment, et je serais très intéressé à voir ce qu'il va faire quand il rentre dans le filet, parce que s'il y a deux, mettons qu'il y a deux des quatre derniers matchs, puis il est complètement dominant dans les deux, ça va créer un débat, c'est certain, puis ça va permettre au moins des dirigeants et des coachs d'avoir un peu de support dans le vestiaire si jamais ils décident de mettre Fowler dans un match en série, parce que les gars auraient vu ce que ce kid-là est capable de faire.
On a hâte de voir devant le filet, ça c'est sûr et ouais. certain.
Merci
Harpin, bon week-end Harpin, bon deux matchs canadiens de Montréal, puis on se reparle la semaine prochaine.
OK, merci les gars, bon week-end tout le monde.
Merci Harpin.